Carrefour.
Quand vous me dites
« C'est génial les capsules, c'est toujours la bonne dose !»
Eh bien j'ai juste envie de vous dire qu'avec 34% de remise immédiate, la lessive en capsule 3 en 1 skip 26 lavages est à 6,84€ seulement au lieu de 10,37€. Et c'est jusqu'au 28 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 549 grammes, soit 12,46€ le kilo, détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Rémi Barré, Perry Collégas, Emmanuel Dancourt et Jérôme Lavrieux. Vous, bien sûr, également au 32-16. Pour répondre à cette question, peut-on encore rire de tout aujourd'hui à la télévision? Vous réagissez au 32-16. Il y aura également RMC s'engage pour vous. 14h30, Amélie Rosic qui va tenter d'aider Emmanuel, un auditeur qui vit un enfer depuis qu'il a installé des panneaux solaires chez lui. Et puis peut-être Rémi, que nous ouvrirons le coffre RMC.
Oui, puisque à quelques jours de la Coupe du Monde, RMC vous offre le meilleur équipement high-tech. Vous vous inscrivez tout de suite en envoyant le mot coffre par SMS au 732-16. Si vous êtes sélectionné, alors vous repartirez avec le téléphone Samsung Galaxy M23 et avec le rétro-projecteur portable. Mais attention, à ce moment-là, vous avez le choix. Soit vous gardez ce cadeau, beau cadeau, soit vous y renoncez. Et alors, vous ouvrez le coffre RMC avec à l'intérieur soit des AirPods, soit la totale Coupe du Monde, une télé 70 pouces, une barre de son, une Xbox Series S, un four à une mini pizza et un mini bar. Pour tenter votre chance, vous envoyez coffre par SMS au 732-16. Coffre par SMS au 732-16.
RMC Estelle Midi.
En tout cas, la vie privée d'un athlète, ça se respecte, même si Jean-Claude a peut-être tout essayé en matière d'aphrodisiaque et autres prothèses. Cela ne nous regarde pas.
Et ce n'est pas à nous, journalistes sportifs, de divulguer qu'il fréquente la boîte gay, le fucking Blue Boy. Cela ne nous regarde pas.
Évidemment, vous en souvenez, c'était la télé des inconnus. Ça s'est arrêté il y a 30 ans, mais aujourd'hui, l'événement télé du jour, eh bien, c'est sur TF1. Tous inconnus, les sketchs cultes des inconnus remis au goût du jour, mais pas par eux, hein, par une soixantaine de personnalités. Ça va donner ça, écoutez.
Ils sont de retour pour une soirée délirante.
Nous sommes les frères qui rappent.
Cela ne nous regarde pas.
Les inconnus ont réuni un nombre incroyable d'artistes.
Bonjour Ingrid.
Pour vous faire revivre leurs sketchs les plus cultes.
Je vais pas te rater, tu vois.
Ah non, mon pote, on va pas te rater.
Une fiction hors norme.
C'est le truc monstrueux.
C'est formidable.
Pour découvrir ou redécouvrir le meilleur du trio iconique.
Un mauvais chasseur.
Il y a un truc qui bouge, il tire.
Et ça, c'est drôle, ça fait rire, ça.
Oui, un peu.
Sous un nouveau jour.
Oh non,
ça fait plaisir.
Ouais, ça fait du bien quand même.
Voilà, ce sera ce soir sur TF1. Évidemment, Rémi, les sketchs ont été triés sur le volet. Il y a des sketchs qu'on ne pourrait peut-être plus voir aujourd'hui.
Oui, exactement. Donc, on vient d'entendre, on le devine en tout cas. Ce soir, l'histoire, c'est celle de ces inconnus qui arrivent à TF1 où personne ne les reconnaît. Et les trois humoristes, ils sont traités comme des anonymes lorsqu'ils racontent leurs sketchs pour rafraîchir la mémoire de leurs interlocuteurs. Ils s'aperçoivent que leurs parodies sont bien passés à la postérité, mais avec d'autres interprètes. Voilà le scénario de l'émission de ce soir, qui au total doit permettre de voir 19 sketchs présentés comme cultes et revisités par une soixantaine de personnalités, depuis l'ex-footballeur Adil Rami, en passant par Pierre Palmade, Bérangère Krief, Chantal Latsou, ou encore M. Pokora ou Soprano. La liste, elle est longue, et dans cette liste, on trouve notamment Tournée Ménage, on s'en souvient, La Secte, Isabelle a les yeux bleus, Les Chasseurs, on vient d'en entendre un extrait, mais ne subsistent que les sketchs considérés comme ayant les mieux vieillis. Voilà ce qui est dit. Alors c'est quoi les sketchs qui ont les mieux vieillis? Bah, en tout cas, c'est pas les envahisseurs, cette parodie d'un monde envahi par des étrangers, en l'occurrence à l'époque, bah, c'était les Arabes, ou Bioman, construit autour des clichés, autour des Asiatiques. Bah, ces sketchs-là seront passés à la trappe ce soir. Pas question non plus de glisser ici ou là un clin d'œil à l'actualité de 2022. Ça restera, comment dire, politiquement correct.
Voilà. Peut-on encore rire de tout à la télé, finalement, Perry Collégas?
Oui, sauf sur Estelle Midi, où on est extrêmement tenu, n'est-ce pas? Vous êtes une vigilance et une rigueur, ma chère Estelle.
Tu as l'air d'être martyrisé.
Brimé même, avec un sparadrap. Alors, on peut... Non. Alors, le paradoxe de notre époque, la liberté d'expression n'a jamais été aussi ouverte, aussi large... Oui. Sauf qu'on s'auto-censure.
Ah, risque et péril.
Ah, risque et péril. Voilà. Ensuite, il y a des retombées collatérales et secondaires qui fait qu'effectivement, On s'interdit jusqu'à essayer de pire en pire, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de paramètres. Alors, les feuges, les blacks, les beurs, les gays, les gros, les vieux, les jeunes. Donc, on ne sait plus à qui on va faire allusion sans se froisser une sensibilité. Et comme nous vivons sous la dictature des minorités, pour peu qu'il y ait une minorité qui se sente maltraitée, le sujet...
La dictature des minorités, vous allez fort, quand même.
On est sous la dictature des minorités.
Ah bon, d'accord. Bah.
C'est comme ça, mais alors, en même temps, il faut les respecter. Mais les respecter pour les minorités, c'est ne plus parler de moi. Vous ne faites pas allusion à ce que je représente, à ce que... Voilà. Donc on en est là, on est dans
donc
un puritanisme.
Donc vous dites qu'on peut plus parler de rien, finalement.
On est dans un puritanisme. Alors, le paradoxe, je vous dis, on a le droit de le faire, c'est pas interdit. Mais si on le fait, on prend un risque énorme. Et compter sur les réseaux sociaux pour déclencher immédiatement un ouragan de colère, de haine et de rage sur celui qui aura eu le malheur. La preuve qu'on peut plus parler de rien, c'est que des dessinateurs se sont fait mitrailler par des militants islamiques.
Oui, enfin là parce qu'ils avaient, c'est autre chose. Oui.
Bah, ils avaient dessiné, ils avaient usé du droit de parodie et du droit d'humour sur un thème qui est la religion. Et ben aujourd'hui, vous êtes aujourd'hui, vous risquez votre vie quand vous vous moquez de la religion en France. C'est un simple constat.
Vous allez regarder vous ce soir Les Inconnus sur TF1 ou pas
Je suis mais une fan absolue des Inconnus. Je peux vous chanter toutes les chansons par cœur. Je connais
donc vous
beaucoup.
Allez regarder ou pas?
Ah bah évidemment
parce
que je vais regarder.
C'est pas eux, hein.
Oui, je sais, c'est pas eux, mais ça m'intéresse de voir ce qu'ils vont en faire.
Enfin, ils supervisent.
Ils supervisent. C'est quand même eux qui ont monté l'émission avec TF1, mais c'est quand même une grande soirée familiale. Ouais, je vais regarder. Il faut quand même que se souvenir qu'à l'époque, donc il y a effectivement une trentaine d'années, même un peu plus, quand ils ont démarré la télé des Inconnus, c'était complètement nouveau. Et ils attaquaient. Ils attaquaient sur les dérives du football, les dérives du show business, les dérives des politiques, les dérives des chasseurs, les dérives de l'hôpital avec Marie-Thérèse, inoubliable.
Ça ne serait plus possible. Vous voyez,
dérive de la ouais, mais moi, ça me pose question parce que c'est quand même le débat qu'on est en train d'avoir. Je le trouve extrêmement important. Est-ce qu'on peut rire de tout encore aujourd'hui? On voit qu'il y a eu du tri qui a été fait dans le sketch des Inconnus. Moi, je suis pas d'accord avec des proches quand ils disent on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Je crois pas que ce soit ça le problème.
Ah bon?
Le problème, c'est on peut rire de tout, mais qui est la personne qui va réussir à nous faire rire de tout? Par exemple, je vais prendre des humoristes d'aujourd'hui, non pas que les Inconnus ce soit hier parce qu'ils sont toujours là, mais Blanche Gardin, c'est quelqu'un qui arrive à nous faire rire. Elle a une puissance d'évocation.
Pas 20h30 à
TF1. Oui, mais elle a fait 20h30 sur C8.
Voilà.
Oui, mais pas sur TF1.
Quelqu'un comme Élodie Poux, alors pas dans son spectacle, mais dans ses revues de presse, elle descend, elle attaque, elle y va. Quelqu'un comme Jérémy Ferrari, je l'ai vu faire un sketch hallucinant, mais moi j'adore aussi, hallucinant, avec Philippe Croizon, qui, donc je le rappelle, est handicapé des bras et des jambes. Ils ont fait un sketch sur le handicap qui était incroyable, qui était d'une drôlerie, c'était féroce. Il a fait aussi un sketch sur les LGBT. QIA+, qui dénonçait la bêtise au milieu, enfin, par rapport aux gens qui n'acceptent pas tous ces gens-là, qui était incroyable. Donc oui, moi je crois qu'on peut continuer de faire rire de
Jean Lavrieux. Vous verrez jamais Jérémy Ferrari à 20h.
Oui,
à 20h
Gaspard
sur TF1
aussi, mais c'est juste TF1. Pardon, excusez-moi.
C'est juste TF1, c'est la plus grande chaîne.
Sont...
C'est la plus grande chaîne en France.
Et alors, il y a d'autres télés où ils sont ces gens-là. Il y a des chaînes du câble. Il y a des endroits où ils sont. Donc moi je pense que le rire doit exister, un rire libérateur. Un rire de résistance aussi, beaucoup, et que ce rire existe toujours, j'en suis sûre.
Jérôme Lavrieux, est-ce qu'aujourd'hui les sketchs les plus trash des Inconnus feront encore rire?
Ben non, parce que je crois qu'en fait, à chaque époque, quand on compare, on ne rit pas toujours de la même chose. Et dans les années 20, dans les années 30, dans les années 50, dans les années 60, il y a eu des rires différents sur des sujets différents, et quand on les regarde... Bon, on se dit, au fait, pourquoi est-ce qu'éventuellement on a ri de ça à cette époque-là? Il y a une différence maintenant. Donc, on n'a jamais ri de tout non plus.
Oui.
Il y a des choses qu'on ne pouvait pas se permettre. Et ce qu'on fait aujourd'hui, dans 15 ans ou dans 20 ans, on ne pourra peut-être pas se le permettre. Il y a une différence par rapport à avant, c'est qu'il y a plein de canaux autre que la télé pour rire de tout. Si je veux aller découvrir des nouveaux comiques qu'on dit trash, je peux aller les voir sur Internet.
Oui.
Alors qu'avant, il fallait aller les voir dans une micro-salle de spectacle. Ils passaient jamais dans les médias. Donc, on peut rire de tout en allant dans des canaux de diffusion qui sont totalement différents. Mais il y a des trucs, certes, on les diffuse pas parce qu'on se dit on pourrait plus rire de ça. Peut-être parce que tout n'est pas encore toujours très drôle à l'heure actuelle.
Moi, j'ai revu ce matin, donc avant justement de faire cette émission, donc j'ai revu avec Rémi, on a regardé Les Envahisseurs, on a regardé Ushuaïa aussi avec Nicolas Hulot qui est dans le quartier de Barbès. En vrai,
c'était
moyennement fait rire, quoi. On va pas se mentir, ça a énormément vieilli. Mais comme quand vous allez voir Michel Leeb, regardez le sketch africain de Michel Leeb, je vous dis que j'ai montré ça. fille pour lui dire voilà, voilà ce qui faisait rire nos grands-parents il y a 40 ans. Elle était horrifiée. Ouais, hein, donc, alors que Michel Leeb, à l'époque, c'était pas très subversif. Et vous regardez maintenant, vous avez une petite goutte de sueur qui perd.
Ça ferait plus rire.
Ah bah plus du tout. Non mais je veux dire, plus du tout, effectivement. Donc
au moins plus rire, oui, ça serait même problématique. Enfin,
je sais même pas, ça a dû faire rire des gens à un moment, mais c'est vrai que...
Dans chez Michel Leeb, à l'époque, il y a effectivement un petit paramètre raciste qui, à l'époque, était consenti et toléré, qui passerait pas.
Ah non, ça va, non, je vous assure. Allez, regardez, je vous assure, ça
ah je l'ai fait.
Ah, ça ne passe plus.
Je l'ai fait, et je me suis étonné, à l'époque, j'en riais. Et je me suis dit, mais comment j'ai pu rire de ça? Ça faisait partie des codes, des normes.
Vous avez regardé la Zoubida, vous savez, la gaffe, là, qui a été numéro un des top 50 pendant des semaines. Vous regardez le sketch de la Zoubida, mais je vous jure, ce n'est pas possible. Enfin, vous pouvez pas imaginer un instant que personne ne se soit posé des questions, genre, ce clip. Enfin, c'est hallucinant.
Et pourtant, vous avez des artistes comme Blanche Gardin, quand elle parle de ses règles, quand elle parle de ses relations amoureuses, etc., d'une manière très trash. On n'aurait jamais pu rire de ça à l'époque.
C'est vrai.
Maintenant, on en rit maintenant.
C'est vrai.
Donc, voilà, il y a jamais une période fantasmée, on pouvait tous permettre.
Parce qu'elle
c'est
pas s'est
vrai.
L'amener.
S'il y a des modes,
elle.
Et ça dépend.
Oui.
Parce que c'est. On est avec Tony qui nous appelle de Pessac en Gironde. Bonjour Tony.
Oh.
Tony, vous êtes avec nous?
Oui, je suis là.
Oui. Tony, est-ce que vous allez regarder Les Inconnus ce soir sur TF1?
Non, parce que j'ai regardé le week-end dernier l'intégrale.
Ah d'accord. Vous avez devancé l'actu.
Et ouais, c'est pour ça que je me suis permis de vous écrire du coup.
Vous avez bien fait.
Moi, je suis très partagé par rapport à ça. J'ai regardé donc du coup l'intégrale avec ma compagne le week-end dernier.
Je l'ai à la maison aussi.
Ouais, moi, clairement, j'ai 32 ans. Je suis un peu jeune pour avoir connu Les Inconnus peut-être à leur grande époque, il y a 25 ans à peu près. Moi, ça me fait toujours autant rire, clairement. Moi, ça me fait toujours autant rire. Et ce soir, je vais pas regarder parce que je veux garder en fait cette image-là des Inconnus dans un premier temps.
D'accord.
Et puis, je suis pas persuadé que je retrouve ce soir la même ligne. Qui était tenu à l'époque quand ils ont fait leur sketch.
Tony, moi mes gamins, ils sont fans des Inconnus. Ils ont vu toute l'intégrale plusieurs fois. Ils savent les vrais, oui, ils savent chanter les chansons autant que moi. Et mes gamins, ils sont plus jeunes que vous. Hein.
Et pour en revenir à la thématique, il y a des choses qui passeraient plus aujourd'hui. Moi, on a passé la soirée à rigoler avec ma compagne, à se faire la réflexion, à se dire ah ben ça pourrait pas passer aujourd'hui. Ça pourrait pas passer aujourd'hui. Et pourtant, c'est passé il y a pas si longtemps que ça en clair sur C8.
Ouais.
Voilà, moi il y a deux sketchs qui m'ont vraiment interpellé. Mais pour le coup, vous venez d'en parler, c'est Marie-Thérèse.
Ah ben l'hôpital.
Quand on voit le tollé qu'a fait Antoine Griezmann avec la blackface, aujourd'hui, je suis pas
sûr. Mais là, c'est pas un sketch. Il est pas humoriste, hein.
Il est pas humoriste. Il a juste voulu faire un déguisement, faire rire les copains. Pour moi, c'est un peu le même principe.
Non, parce qu'il y a un statut d'humoriste.
Il y a pas de moquerie, il y a pas de jugement, il y a pas de. Peut-être qu'il y a un statut. Et le deuxième, c'est le fameux chagrin d'amour avec la scène finale. Elle est, je sais pas si vous la remettez, mais elle est terrible, la scène finale, en fait.
Non, je me souviens plus.
C'est Didier Barbelavie et l'équivalent de Pierre qui se retourne et qui regarde deux gamines, même pas majeures, sur un vélo et qui hoche la tête, l'air de dire, faut encore y aller, quoi. Je vous invite à regarder cette scène. Elle est lunaire. Et elle est passée en clair sur C8 il y a pas longtemps. Sans compter que dans ce sketch-là, il y a aussi Légitimus roué de coups avec des bleus sur tout le visage. Voilà, la chanson est très drôle, mais là, je m'étais dit, on touche quand même à une certaine limite.
Ouais, c'est ça. On n'en rit plus aujourd'hui. Merci en tout cas, Tony, d'avoir été avec nous. Tony qui ne regardera pas donc Les Inconnus ce soir sur TF1 pour regarder le souvenir des vrais inconnus. On est avec Arnaud Demange, c'est notre invité sur ce débat humoriste, évidemment, qu'on retrouve avec un immense plaisir tous les matins sur Apolline Matin, 7h20, 8h20. Salut Arnaud.
Salut, comment ça va?
Bonjour. Bah bien Arnaud, et toi?
Merci de m'accueillir, Estelle, c'est gentil, merci.
Écoute, moi je suis ravie. Arnaud, on se pose la question, est-ce qu'on peut rire de tout à propos des inconnus qui passent ce soir sur TF1, mais avec des sketchs un petit peu remaniés, et puis pas tous les sketchs.
J'entendais un peu le débat. Moi, ma réponse, c'est qu'on peut rire de tout si c'est marrant. Voilà, elle est bête.
J'aime bien.
Bête et méchante, la réponse. C'est-à-dire que si les gens rigolent, c'est qu'il n'y a pas de sujet, en fait. Et ce qui détermine si c'est marrant ou pas, c'est si les gens comprennent quel est le message final. Qu'est-ce que vous voulez dire, en fait? Quel est l'endroit d'où vous partez et ce que vous avez envie de dire? Je vais prendre un exemple qui est hyper grossier et caricatural, Mais vous comprenez bien que quand Desproges fait une vanne sur les Juifs, c'est pas pareil que quand Dieudonné fait une vanne sur les Juifs.
Oui, j'entends.
Même si c'est la même vanne, le destinataire et l'émetteur seront pas les mêmes. Donc, évidemment, si vous êtes un humaniste, ça va se sentir, et si vous l'êtes pas, ça va se sentir aussi. Donc, je pense qu'on peut rire de tout, on doit même rire de tout. Après, c'est est-ce que vous êtes prêt à affronter les conséquences de ça? Et d'où vous parlez. Et si c'est marrant, oui, vous pouvez aller partout. Moi, je.
Mais est-ce que toi,
je vais super, super loin. C'est des trucs que je pourrais pas faire en télé ou en radio.
Ah bah voilà, c'était ma question.
Que je m'autorise à faire sur scène.
C'était ma question justement, Arnaud. Est-ce que par exemple, de toi-même, tu t'auto-censures le matin quand t'es chez Apolline en disant là, ça, je peux pas faire ça.
Je m'auto-censure pas, mais je sais qui m'écoute. C'est-à-dire dans une salle, les gens. Dans la salle, rien que dans le spectacle, il y a des vannes que je fais en fin de spectacle que je ferai pas au début, parce qu'il faut que les gens s'habituent à moi, rentrent dans mon univers et qu'ils aient la certitude que je suis pas en train de les embobiner pour les emmener à un endroit où ils veulent pas aller. Quand je fais des vannes le matin, je sais que les auditeurs d'Apolline Matin, ils sont en voiture, ils déposent des gosses à l'école, ils font du café, ils font toujours un truc à côté en même temps.
Ouais, faut faire attention aux gosses quand même. Oui,
voilà, je vais pas les emmener dans un truc hyper compliqué, très trash, très borderline, parce que un malentendu est vite arrivé quand les gens font autre chose. Donc évidemment, je fais attention à ce que je fais suivant le canal. Quand je fais des vidéos internet, je vais pas trop loin parce qu'internet est très puritain, et quand je suis sur scène, je vais très loin parce que sur scène, les gens aiment bien qu'on aille le plus loin possible. C'est un espace qui est fait pour ça.
Oui, surtout ils payent pour ça en fait. C'est la différence. Ils payent pour ça. C'est-à-dire que quand t'es sur internet, n'importe qui peut aller faire une capture d'écran, un machin, et tu payes pas pour ça en fait. La scène,
tandis qu'un spectacle, tu payes. Ils peuvent s'indigner, ça peut très vite partir dans le grand n'importe quoi. Quand ils sont dans une salle, ils peuvent pas repartir avec une vanne à diffuser quelque part, sortie de son contexte.
Et Arnaud, est-ce qu'il y a quand même des thèmes, qui sont tabous pour toi, que tu ne t'autorises pas à faire tout simplement parce que tu te dis, soit t'as pas envie, soit tu te dis que ça fait plus rire aujourd'hui.
Sur scène, non. Sur scène, vraiment, on peut aller partout. Mais encore une fois, l'humour, il est toujours au service de quelque chose. Donc, si vous le mettez au service d'un bon message, tout va passer.
Non mais Michel Leeb, l'Africain, par exemple, ça faisait rire les vieux il y a 40 ans, ça faisait plus rire personne aujourd'hui, quoi.
Ben oui, mais parce qu'il n'y a pas de message, et qu'aujourd'hui, on a grandi avec l'idée que l'humour servait à dire quelque chose. L'humour, c'est très politique. C'est une manière de faire, je sais pas moi, de l'éducation populaire, ou de dédramatiser une situation, ou d'emmener les gens sur une idée. Et donc, si Michel Leeb fait l'Africain comme ça, brut de décoffrage, et qu'il le met pas du tout en perspective, évidemment, ça fait rire personne, parce qu'en plus, ça a été fait il y a 40 ans.
Mais c'est ça.
Ça a été fait il y a 40 ans, donc le monde a changé.
Enfin, il était invité partout il y a 40 ans, je veux dire.
Oui, mais il n'y avait pas la même. Depuis, il y a des générations et des générations d'humoristes qui ont poncé des thèmes qui sont usés jusqu'à la corde, et que si lui revient après 40 ans de réflexion sur est-ce qu'on peut rire de tout, le racisme, les noirs, etc., ça a fait cogiter beaucoup de monde. S'il revient en faisant semblant de rien avoir entendu de 40 ans de réflexion, oui, ça aura l'air juste sinistre, mais c'est parce que...
Il faudrait lui demander s'il regrette, il serait capable de
le retourner en disant voilà, j'étais con et puis.
Ouais, mais moi j'aimerais bien savoir justement si lui se dit c'est plus drôle aujourd'hui ou si au contraire il se dit j'ai bien fait. Perico les gars, c'est ce que quelque part réseaux sociaux ont fait beaucoup de mal à l'humour parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on voit des humoristes qui peuvent se faire épingler, brocarder pour une mauvaise vanne, ce qui n'arrivait pas avant, il y a pas de réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux sont un fléau civilisationnel dans lequel il se passe des choses très bien. Mais c'est un fléau. C'est un fléau parce que finalement, cette capacité de pouvoir, ces moyens extraordinaires à travers la planète de pouvoir communiquer, fait que les esprits les plus nocifs, les gens les plus haineux, les consciences les plus perverties peuvent s'exprimer sous l'anonymat tranquillement. Donc de fait, c'est pas une surprise. Évidemment que ça tue la liberté, que ça tue l'expression, ça tue l'imagination.
Ouais, Rémi.
Le temps que je vérifie, j'avais en mémoire que Michel Leeb est revenu sur la polémique parce qu'en fait, il était remonté sur scène. Il était remonté sur scène en 2018 et il avait rejoué le sketch de l'Africain.
Non.
C'est un des classiques. Et à l'époque, ça avait fait polémique. Et il avait dit qu'effectivement, il y avait aucune incitation à la haine raciale.
Non.
Il a dit, je suis d'accord, j'ai pu faire du mal, je regrette profondément d'avoir pu choquer et d'avoir fait de la peine. Je m'en veux terriblement, mais le fait de prendre l'accent n'était pas une incitation, mais une caricature. Je ne le referai plus aujourd'hui. Mmh. C'est ce qu'il avait dit.
Arnaud Demange, justement, sur les réseaux sociaux, vous êtes très très présent dessus. Est-ce que c'est un fléau pour les humoristes ou est-ce qu'au contraire, ça vous permet de diffuser plus largement votre humour?
Non, ça dépend. Moi, ça a été une bénédiction. Hein. Mes salles se sont remplies via les réseaux sociaux. Mmh. Simplement, encore une fois, il faut savoir où on fout les pieds. Mmh. On fout les pieds dans un espace où les gens ne vous connaissent pas et où tout est mis au même niveau. C'est-à-dire qu'ils viennent d'enchaîner une interview de Macron, une vidéo sur faire des cookies et après, ils font un sketch. Donc, tout est mis sur le même plan. Donc, il faut être conscient de ça quand on commence à faire des vannes parce qu'on sait que le second degré est un truc qui est quand même pas très très présent sur Internet.
Oula.
Donc on fait des vannes en fonction de ça. Et puis après, une fois qu'on les a chopés dans la première minute avec un truc qui leur plaît, dans la deuxième minute, dans la troisième minute, on peut commencer à aller plus loin. Mais c'est comme dans n'importe quel contexte où vous ne pointeriez pas à un dîner en faisant dis donc, présentement, je vais te manger.
Non, ça m'irait pas à l'esprit.
Vous pourriez le faire au bout de 4 heures, une fois que tout le monde est bourré et que tout le monde est
bien. Non, pas non plus. Mais non.
Non, mais voyez ce que je veux dire. Au moins pour vous foutre de la gueule de Michel Leb ou pour
oui.
Parce que les voix sont marrantes ou j'en sais rien. Ben, on a tous fait des vannes où on était hyper honteux de les faire en fin de dîner. C'est arrivé à tout le monde.
Mais encore une fois, ça dépend avec qui on les fait.
Mais voilà, ça dépend de qui est autour, si vous avez fait marrer, s'ils vous connaissent, etc.
S'ils savent que c'est de l'humour, vous voyez ce que je veux dire?
Faut juste que les gens apprennent à vous connaître, à comprendre qui vous êtes et ce que vous voulez dire en filigrane. Une fois que vous avez pigé ça, vous pouvez faire absolument n'importe quoi.
Arnaud, est-ce que tu vas regarder Les Inconnus ce soir?
Ben non, parce que je vais dormir. C'est bête.
C'est pratique. Et si tu ne devais pas te réveiller?
Non, je regarderai, bien sûr. Je regarderai. Moi, j'ai une admiration immense pour Les Inconnus. Donc, je regarderai comment a été utilisé le matériau. C'est un matériau tellement génial. Donc, je serais très curieux. Mais non, là, je vais dormir pour faire les meilleures vannes possibles demain matin.
Il est super, Arnaud.
Et 8h20.
Ouais, mais j'allais la faire, de toute façon, Arnaud. Ouais, donc, tu vois, tu l'as fait à ma place. Et merci, en tout cas, Arnaud, d'avoir été avec nous. On te retrouve évidemment demain.
Scène, voilà, vous verrez.
Chez Apolline ou sur scène. 7h20, 8h20. Merci, Arnaud Demange. Est-ce que finalement, quand même, Jérôme Lavrieux, la méchanceté n'a pas aussi remplacé l'humour? On le voit aussi aujourd'hui. Il y a des vannes qui sont très méchantes. Mais finalement, sont peut-être moins drôles, quoi.
Ouais, mais ça dépend de qui les fait. Il avait raison en disant il y a l'émetteur et il y a le récepteur. Et donc, si je vais sur Twitter avoir des extraits, je les cherche aussi. Mmh. Donc, ça ne me tombe pas dessus par hasard. Sauf que TF1, quand vous allumez la télé, ça vous tombe dessus. Dans un autre domaine, hier soir, il y avait un film sur TF1 avec Bruce Willis. Il y a eu un panneau avant le film, qui dit pour pouvoir diffuser à cette heure-ci ce film, nous avons été obligés, en accord avec le producteur, d'enlever certaines scènes, sinon nous ne pourrions pas vous le diffuser.
De Bruce Willis,
regardez, il y a eu un avertissement avant le début du film.
Absolument.
Parce qu'il y a des trucs qui étaient ou trop violents, ou trop datés, ou tout, etc. Donc ça veut dire que tout dépend de l'endroit, du moment et du public à qui on s'adresse. La télé, elle rentre chez les gens. Nous, on rentre sur Twitter, sur Internet, quand on va voir. Sur les plateformes, on sélectionne celui qu'on veut aller voir.
Il y a toujours eu des gens qui étaient choqués de tous les temps de tous les humoristes, c'est toujours une partie. Sauf qu'aujourd'hui, ils peuvent s'exprimer de façon violente et anonyme. Donc voilà, c'est la porte ouverte à la.
Mais Pierre Ricoligas, est-ce qu'un Coluche ou un Desproges, aujourd'hui, pourrait encore avoir du succès?
Oui, bien sûr. Plus qu'on les pleure d'ailleurs. Ils auraient, vu le contexte dans lequel on est.
Mais leur sketch d'avant, tu vois, liberté de le faire aujourd'hui, le Luron.
Mais non, mais ils feraient pas la même chose.
Il faudrait
qu'ils soient adaptés, sinon, Michel Leb, on le voit plus dans des spectacles. Je suis désolé, je l'aimais beaucoup, mais ça fait longtemps qu'il en fait plus. On n'en voit plus. Parce qu'il faut savoir se renouveler, s'adapter aussi à l'ère du temps. Et l'humour d'aujourd'hui, c'est pas le même que celui d'il y a 10 ans, il y a 15 ans ou il y a 20 ans.
Je révisionnais avec. On s'inquiétait justement au journal là-dessus. On a revisionné des sketchs. Il y a des sketchs de Desproges qui sont absolument intenables et qu'il referait de la même façon aujourd'hui parce qu'il pouvait le faire. Il était insoupçonnable. Sur les Juifs, il est allé d'une... C'était gigantesque. Bien sûr qu'aujourd'hui, il les referait. D'abord parce qu'il s'en foutrait. Et Fernand Reynaud, il y a aussi des scènes à la suite des paysans. C'est d'un racisme quand on dit paysans. Et il leur ferait aujourd'hui parce que voilà, il y a pas de problème. On sait que la personne est inattaquable. Ensuite, s'il y a
Vous regardez certains buts de Funès, c'est costaud aussi. Hein.
Ouais. En plus, on a toujours dit est-ce que Rabbi Jacob pourrait être diffusé aujourd'hui? Oui, avec d'ailleurs, voilà. Mais à l'époque, c'était le problème, c'est est-ce qu'il y a de l'idéologie ou est-ce qu'il y a une doctrine sous-jacente, induite dans l'humour? Et c'est là où on dit, est-ce que souvent, c'est la bien, souvent l'humoriste lui-même est bien pensant.
C'est ça.
Et il fait de l'humour pour dénoncer quelque chose qu'il considère comme mal pensant. Et c'est là où on a un problème.
Enfin, la part des humoristes, souvent, ils ne parlent que de leur quotidien. Je ne sais pas si vous avez vu. Hein,
ah, c'est des stand-upers, ça, surtout.
Mais oui, mais, oui, mais stand-up, ça. Avant, c'est, ça, ouais. ça dépassait un peu ça. Et aujourd'hui, ça ne dépasse jamais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des petites vannes un peu. Vous avez beaucoup d'humoristes qui font des vannes, je vais dire, faciles, même si ce n'est jamais facile comme métier, mais qui sont un peu attendues, un peu convenues. Et c'est un peu trashouille, mais pas trop. Vous voyez, ça ne dépasse jamais la ligne, quoi. Et finalement, il n'y a plus trop d'engagement. Avant, les humoristes étaient extrêmement engagés. Aujourd'hui, ça ne s'engage plus beaucoup, quand même. Ouais. Il y a moins d'engagement qu'avant.
Il y a moins de sketch.
Je rappelle que Coluche voulait être candidat à la présidentielle quand même. Voilà, donc c'est.
Ah ouais.
Peut-on encore rire de tout? C'est la question qu'on vous a posée sur le compte Twitter d'Estelle Midi, Rémi.
C'est très très partagé. C'est le nom qui l'emporte. On ne peut plus rire de tout aujourd'hui, mais qu'à 52%.
Ah ouais, donc c'est kiff-kiff, quoi. Hein.
Ouais, quasiment.
C'est bien peut-on et doit-on. Hein. C'est pas doit-on. C'est
non,
peut-on. Voilà.
Donc
les gens constatent qu'il y a une censure. Il y a une censure.
Bah,
voilà.
Oui,
il y a une censure.
C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure.
Une autocensure, même si vous.
Dans un instant, tiens, on va pas l'autocensurer. C'est Amélie Rosic, RMC s'engage pour vous. Et Amélie qui va tenter d'aider Emmanuel, un auditeur qui vit un enfer depuis qu'il a fait installer des panneaux solaires. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
14h31 sur RMC, RMC Story. On va vous aider maintenant grâce à Amélie Rosic. RMC s'engage pour vous.
RMC, Estelle Midi.
RMC s'engage pour vous.
Et Amélie, aujourd'hui, vous nous faites des révélations dans le secteur des panneaux solaires. Faut vous méfier avant
ouais,
de l'installer.
Alors, est-ce que vous connaissez Open Energy? Est-ce que ça vous parle? Bon, alors moi, ça me parlait pas non plus, mais pourtant, l'entreprise, elle se présente comme leader du marché de la transition écologique juste après EDF, avec notamment 6000 chantiers par an, rien que ça. C'est donc tout naturellement qu'Emmanuel, notre auditeur, se tourne vers un de leurs commerciaux pour installer des panneaux solaires sur le toit de sa maison.
Parfait acteur américain, vous a dit voilà, vous ne paierez plus de factures d'électricité, vous ferez des économies, vous allez revendre du courant, un tarif réglementé, donc ça va vous rapporter de l'argent. Et on s'est dit bon, bah, c'est une démarche actuelle.
15 jours plus tard, les techniciens posent les panneaux photovoltaïques comme convenu.
Alors tout est allé très vite, Amélie, il est où le problème?
Bah justement, c'est allé un tout petit peu trop vite, parce que cet été, Open Energy prévient Emmanuel que son installation, en fait, elle est illégale.
Ah,
ce chantier, il a été réalisé par Open Energy avant d'avoir reçu l'autorisation ou non d'installer des panneaux solaires de la part de la mairie. Et comme la maison d'Emmanuel, elle est à moins de 500 mètres d'une église classée, bah, c'est le PLU, c'est le plan local d'urbanisme, c'est l'architecte des bâtiments de France qui décide, et qui décide qu'à ce moment-là, on n'a pas le droit d'installer des panneaux solaires. Résultat des courses, à ce moment-là, Emmanuel dit à l'entreprise Open Energy, bon, vous avez installé sans autorisation, maintenant je vous demande de désinstaller. Bah, sauf que l'entreprise, elle refuse, et c'est pour ça qu'Emmanuel a fait appel à nous. Il y en a quand même pour plus de 22 000 euros.
Ah oui.
C'est plus d'une année de salaire. Et j'ai pas mangé encore. Et j'ai pas payé mon crédit. Ça nous ronge, on sait plus quoi faire. On voulait faire des économies, faire un bon geste pour la planète. Le piège se referme sur nous et on s'en sort plus.
Ce qu'on a fait, évidemment, c'est qu'on a contacté Open Energy. Ouais. Ça, c'est daté du mois de mars. Eh bien, nous, en moins d'une heure après notre coup de fil, notre auditeur a reçu un mail, comme ça arrive souvent.
Oh, c'est fou, hein.
L'entreprise admet son erreur et accepte finalement de tout désinstaller et d'annuler le contrat.
Ah bah génial. Ça, c'est une super bonne nouvelle.
Sauf que c'est pas terminé.
Bah oui, c'est ça, parce qu'en enquêtant, vous avez découvert que le problème concerne beaucoup de clients.
Exactement, on n'a pas fait exprès, mais on a mis le doigt visiblement sur quelque chose, et c'est une information RMC, Open Energy, et son dirigeant sont convoqués devant le tribunal de commerce, correctionnel de Paris, donc c'est au pénal, pour pratique commerciale trompeuse suite à plus de 200 plaintes similaires. Alors, c'est pas des plaintes similaires parce que des gens ont une église à 500 mètres.
Une église classée, bon.
Non, exactement, mais parce que l'autorisation n'est pas arrivée à temps, parce qu'on leur a vendu qu'ils allaient faire des super économies d'énergie et en fait à l'arrivée c'était pas du tout le cas, ou bien parce qu'on leur a dit on va vous retenir une somme d'argent alors qu'ils s'étaient rétractés, dans le délai imparti. Donc voilà, pour tout un tas de raisons. Joël Mercier, il est président de ce qu'on appelle le groupement des particuliers producteurs d'électricité photovoltaïque, c'est un peu long, mais c'est une association qui accompagne notamment certains des plaignants, écoutez-le.
Aujourd'hui, il faut faire quelque chose pour assainir la filière qui, entre parenthèses, aujourd'hui est en train d'exploser. La transition énergétique, c'est chouette. Ça peut nous faire économiser de l'énergie, mais il faut que ce soit fait dans les règles de l'art. Et s'il faut, on s'oppose aux sociétés qui ne jouent pas le jeu.
Mais ils répondent quoi, Open Energy ?
Alors, on a eu d'abord au téléphone un de ces juristes, puis le dirigeant d'Open Energy, que j'ai eu au téléphone hier, après-midi. Alors, lui, il nous explique qu'il est en fait victime de son succès. Je vous rappelle, il se présente comme le leader, donc 6000 chantiers par an, et que finalement, c'est le jeu du volume. Quand on fait beaucoup de volume, eh ben, on a des plaintes. Lui, il dit qu'il a 1% de réclamations seulement.
C'est malin, c'est malin. Non, mais c'est logique. C'est
voilà, il nous explique qu'il n'a qu'un pour cent de réclamations clients par rapport à tous ses contrats. Il nous dit quand même qu'il fait régulièrement face à des procédures en justice, soit devant le tribunal de commerce, soit pour le coup donc tribunal correctionnel. Et il nous a dit nous gagnons 60% de nos procès et donc, il nous a expliqué qu'il était assez confiant. On a trouvé que 60% c'était pas voilà. En tout cas, sachez que dans le dossier actuel, donc il y a 200 plaignants. Lui nous dit que 70% de ces 200 plaignants en fait c'est pas de vrais clients et que pour les 30% restants tous les dossiers sont réglés. Bon, en tout cas c'est la justice qui le décidera puisqu'il est convoqué le 9 février prochain, lui en son nom et son entreprise, pour donc, je vous le rappelle, pratique commerciale trompeuse, et pour ça, il risque quand même jusqu'à 2 ans de prison et 300 000 euros d'amende.
Ah, on parle de quoi demain, Amélie ?
Eh bien, demain, on parle d'un petit village qui est bien embêté parce qu'il est infesté de mouches à cause d'un élevage de poules et ça dure depuis plus de 10 ans.
Ah, mais on a déjà eu un cas comme ça. C'était très compliqué.
Voilà. On va essayer de les aider. Et ça avance un petit peu.
Bon, bah ce sera demain. Amélie Rosic, RMC s'engage pour vous tous les jours à 14h30 dans Estelle Midi. Dans un instant, on verra si on ouvre le coffre RMC. Et puis, il y aura les immanquables également, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui avec ces horribles mascottes des JO 2024.
Horribles.
Mais écoutez, mais depuis ce matin, mais je suis
atterrée.
J'ai honte.
C'est des friges.
Je n'ose plus dire que je suis française.
Non, mais pourquoi on est obligé de toujours faire des choses comme ça et pas quelque chose de simple.
Mais, non, mais,
et joli.
Mais là, c'est peut-être même trop simple. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, mais ça ne va pas.
Moi, j'en mets. Hein. Moi, j'en mets sur le plateau, hein, le jour.
Non, non, mais moi, je ne veux pas de ça. Parce que c'est... Et en plus, c'est fabriqué en Chine. Enfin, bon, bref, rien ne va. On en parlera dans un instant. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
14h42, vous êtes dans Estelle Midi, toujours avec Rémi Barré, Perico Légas. On est avec également Emmanuel Dancourt et Jérôme Lavrieux. Dans un instant, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Mais tout de suite, c'est l'heure du coffre RMC, Rémi, avec un choix cornélien à effectuer.
Oserez-vous ouvrir le coffre RMC ?
Le coffre RMC.
Tu as une enveloppe devant toi, Estelle. Dans cette enveloppe, il y a un Samsung.
J'ai pas d'enveloppe parce qu'il y a plus de.
Ah bon, t'as pas d'enveloppe. Bon, tant pis. En tout cas, il y a un Samsung Galaxy M23 et le rétroprojecteur portable à gagner. Ça sera pour la personne qui va être sélectionnée avec nous dans quelques instants. Et à ce moment-là, tu vas lui donner le choix. Soit elle garde ce cadeau.
Ouais.
Soit elle tente d'ouvrir le coffre RMC avec à l'intérieur des AirPods ou alors la totale Coupe du Monde avec une télé 70 pouces, une barre de son, une Xbox Series S,
un
four
pizza.
À mini-pizza et un mini-bar, exactement.
Et on va jouer avec Jessie qui nous appelle de Cosne-Cours-sur-Loire dans la Nièvre. Bah, décidément,
les habitants de la Nièvre
ils envoient cette émission. Comment ça va, Jessie ?
Oui, bonjour Estelle, bonjour à toute l'équipe.
Salut Jessie.
Bien, merci.
Alors déjà, c'est que les bonnes nouvelles, là.
Ouais.
Le fait d'avoir été sélectionnée, Jessie.
Ah ouais, non mais carrément, je m'y attendais carrément pas.
Vous êtes sûre de remporter un cadeau magnifique. Là, ce qui est à vous pour l'instant, Jessie, c'est un téléphone et un visioprojecteur.
Ouais, c'est déjà top.
C'est déjà,
ouais, c'est déjà un peu Noël en avance, quoi.
Hein, c'est un peu Noël en avance.
Ça, hein. Ouais, bah ouais.
Mais peut-être que si vous ouvrez le coffre, vous aurez Noël, le jour de l'an, Pâques et l'Épiphanie en avance.
Ouais, et puis mon anniversaire, vu que c'est au mois de janvier aussi.
En plus.
Ah ouais.
Mais c'est vrai que c'est un choix qui est dur à faire.
Ouais.
Allez, moi je dis le coffre.
Le coffre ?
Ah là. Ouais, ouais.
En plus, il n'a pas été gagné hein, tout à l'heure dans les grands
Ouais, 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 non mais... Faut y croire.
Ouais. Et puis de toute façon, au pire, c'est déjà...
Ouais, il y a les AirPods.
Il y a les AirPods.
C'est quand même pas mal.
Ce qui est déjà un beau cadeau aussi.
Oui. En plus.
Ouais.
On ouvre le coffre, Jessie ?
Ouais, on ouvre le coffre, ouais.
Allez, je fais le code. 1205E, c'est parti. Alors, attends.
Ça arrive ?
J'ai peur de
c'est
ne pas
bon. Et dedans, il y a une enveloppe ? Non.
Le coffre est ouvert.
On a eu peur. C'est déjà bien.
C'était
si le code n'était pas bon, c'était mal barré.
Oui, mais bon. J'ai une boîte marron devant moi, Jessie, comme à chaque fois.
Ouais.
J'ouvre la boîte marron, Jessie.
C'est petit. Allez. Pour un four à pizza. Hein.
Et dans la boîte marron, il y a, Jessie, la Total RMC.
Oh, formidable.
Alors là, Jessie, c'est la folie.
Jessie, oh, elle gagne une télé 70 pouces, une barre de son, une Xbox Series S, un four à mini pizza et un mini bar, le four à mini pizza qui fait rêver Estelle depuis des semaines.
Il y a tout, il y a l'anniversaire, il y a Noël, il y a l'anniversaire des enfants, celui du mari, il y a tout, hein, Jessie.
Il y a tout, il y a tout. C'est top, c'est super top. Je suis trop contente, merci beaucoup. C'est super, vous êtes géniaux. Merci, continuez comme ça.
Eh ben nous, on est hyper heureux, Jessie, de vous rendre heureuse comme ça parce que on vit la super contente et il y a de quoi, en tout cas. Bravo, Jessie, merci beaucoup d'avoir joué avec nous et vous recevrez cette totale RMC. Eh bien, très vite chez vous dans
la Je vais lui amener.
Et
hein, je vais lui amener.
Oui, bah, amène-lui.
Voilà.
Et garde-moi le four à pizza. Rémi, on peut regagner le
coffre. Oui, on continue de jouer parce que tu peux témoigner, oui, la semaine dernière, il est arrivé deux fois de suite, la totale soit remportée. Bon, donc vous continuez à jouer dans le Super Moscato Show dans un instant. Vous envoyez coffre par SMS au 732-16. Coffre par SMS au 732-16.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Alors là, il y a vraiment un truc qu'il ne fallait pas rater. Enfin, si, en fait, j'aurais préféré le rater. C'est la mascotte du jour, Rémi.
Les JO de Paris 2024 ont dévoilé ce matin leur mascotte. Ce sont deux bonnets phrygiens, l'apparence d'animaux, appelés Phryges, un symbole républicain pour incarner la peluche, emblème de l'édition olympique française. Ces peluches sont fabriquées en Chine pour la quasi-totalité. Et on nous dit, ce sont les organisateurs des JO de Paris qui nous disent, bah, c'est comme ça et c'est comme la très grande majorité des peluches vendues en France. Voilà.
D'accord. Voilà. Il faut dire quand même qu'il y a une mascotte paralympique. Hein. Il y a une mascotte olympique et une mascotte paralympique. Il y a deux mascottes.
Et c'est pas la même.
Voilà. Et c'est pas la même. En fait, il y a une jambe avec une prothèse pour la mascotte paralympique, comparé à la mascotte qui est une mascotte olympique. Classique Perico Légas, un petit point de vue sur cette mascotte.
C'est le bonnet phrygien, c'est un bon symbole républicain. Paradoxe, c'est que c'est fabriqué en Chine. Je ne veux pas croire qu'on n'ait pas trouvé les moyens de faire fabriquer ça en Europe.
Mais c'est hallucinant. En
fait. Non, mais c'est un scandale national. Ça devrait être d'ailleurs.
On refuse l'argent de Total pour les JO et on va les fabriquer non plus en Chine. Moi, les bras m'en tombent.
Non, mais c'est Hidalgo. Elle est capable de tout. Elle est formidable.
En tout cas,
elle a accepté sa responsabilité politique est totale. Et le fait que ce soit fabriqué en Chine, c'est le paradoxe. C'est un bonnet phrygien. Le symbole est pas mal. Et le fait qu'on accepte que ça vienne de Chine, mais c'est une honte dégueulasse, quoi. C'est à vomir. Voilà. Moi, ça me choque.
Ah, d'accord.
Ça me choque parce que, non, il n'y aurait pas eu d'autres moyens, d'accord. Mais il y a d'autres moyens de faire. Je parle même pas de France, je parle de l'Europe. Je peux pas croire qu'au Portugal ou en Grèce, il n'y ait pas une société qui ait pu faire un symbole. On va le faire en Chine. Ces gens-là sont des voyous, c'est tout. Des voyous.
Ouais. Mais surtout qu'en plus, a priori, il n'y a pas besoin d'en faire un très grand nombre parce que personne ne va les acheter. Donc, en fait, vous étiez même.
Très bonne remarque, ma chère Estelle. D'ailleurs, à cause de ça.
Tu as une entreprise française.
Mais personne, alors, mais à cause de ce que je viens de dire, parce que je ne serai pas le seul à le dire évidemment, personne ne va les acheter. Donc l'argent du contribuable va être jeté à la poubelle ou va enrichir. Mais en plus, parce que c'est fabriqué en Chine, il va y avoir un boycott, vous allez voir, évidemment, les gens ne vont pas vouloir. Donc l'argent du contribuable.
Non, mais le contribuable, il n'y est pour rien du tout, les mains, il va rien payer.
Indirectement avec l'argent public.
Il y a la mascotte qui va être dans les stades, et puis il y a tous les vendeurs de souvenirs qui vont acheter des mascottes qui sont fabriquées en Chine.
Ils cherchent encore des bénévoles, vous n'avez pas prêt de trouver ceux qui vont être sous ces mascottes-là.
Les pauvres. Non, mais c'est laid quand même.
Il va falloir les payer, quoi.
Tous les goûts sont dans la nature, mais là je trouve ça laid. De loin, je croyais que c'était des samoussas, les trucs que j'ai dans les restaurants indiens. Non, mais c'est vrai. Mais c'est,
alors, moi j'ai cru que c'était des étoiles de mer parce qu'ils ressemblent un peu au personnage de Nemo. Il ressemble au personnage de Dory aussi, dans le personnage de Nemo avec des yeux complètement exaltés. Moi je me dis pas que je veux offrir ça à un petit neveu, à mes fils ou que sais-je. Hein. J'ai avoir du mal. Même en tant que doudou, tu vois, ça passe pas.
Parce qu'on a toujours l'impression que les mascottes, c'est raté. Ça fait longtemps que j'ai pas souvenir d'une mascotte.
Mais pourquoi travailler les écoles d'art, les étudiants, ils seraient beaucoup plus modernes dans leur composition.
Pour vendre des trucs souvenirs, c'est tout.
Pour mettre des gens dedans, c'est intelligent. Bon, on va passer à un tout autre sujet, beaucoup moins drôle, hein, celui-là. C'est l'effondrement du jour.
Le ministre délégué au logement, Olivier Klein, est à Lille aujourd'hui après l'effondrement de deux immeubles samedi matin à deux pas de la Grand Place. Un drame qui a fait un mort. Une enquête est en cours. Mais le ministre assure que les bâtiments en question n'étaient pas frappés d'insalubrité et n'avaient pas de désordre, de défaut apparent.
C'est terrible, hein, cette histoire, Perico Légas, et on se dit heureusement que ces trois étudiants, ils ont été écoutés par la police et par les pompiers, parce que ces derniers auraient pu croire que c'était des étudiants bourrés qui rentraient de soirée, mais ils ont.
Il y en a un de ces étudiants qui habitait l'immeuble, qui a vu que le mur était déformé et qui a entendu des bruits de gravats qui tombaient, qu'il a averti les pompiers très tôt.
Il y a eu le même drame à Marseille, rue d'Aubagne.
Oui, tout à fait, bien sûr. Exactement.
Là, c'était à Marseille, c'est Marseille, le contexte est peut-être plus compliqué. Je ne pensais pas qu'à Lille, avec une mairie quand même, Martine Aubry, c'est pas n'importe qui. Je pensais pas que cette ville de Lille pouvait avoir aussi ce genre de vétusté et de négligence.
Il y en a partout. Enfin, baladez-vous à Paris, il y a aussi des immeubles vétustes.
Ah, mais il y a eu, voilà. Mais là, je comprends pas quand on a eu des alertes dans d'autres villes qu'il y ait pas, à un moment donné, des contrôles, des inspections, voilà, des vérifications. Un immeuble de ce genre-là, même s'il donne pas de signes, on se doute qu'il y a peut-être une probabilité.
Visiblement, il y avait quelques signes, puisqu'il y avait quand
même. Et en plus, il y avait quelques signes.
Quelques détachements de pierres sur la corniche, etc. Quand on voit les anciennes photos, et quand on interroge les, ce qu'ont fait vos confrères journalistes, quand on interroge les gens qui sont dedans, en disant, on a alerté souvent, on a alerté les propriétaires sur le sujet. Alors, à Marseille, tout le monde est tombé dessus sur Marseille en disant, ah, mais c'est parce que c'est Marseille. Bah, là, c'est à Lille, hein. Donc, l'enquête va être, à mon avis, intéressante pour déterminer les responsabilités des uns et des autres. D'ailleurs, pourquoi on évacue dans la nuit, merci à ce jeune, on évacue l'immeuble concerné et pas le deuxième. Oui. Et le médecin est mort dans le deuxième. Exactement. Il n'a pas été évacué. Non. Il y a un vrai sujet. Et on ne ferme pas l'accès à la rue après les évacuations. Ouais. Là, il va peut-être falloir que chacun prenne ses responsabilités.
Voilà, a priori, il va y avoir des contrôles dans toute la rue.
Oui.
Mais c'est sûr que ça va peut-être aussi accélérer les contrôles dans d'autres villes de France, parce que c'est assez
on avait dit ça après Marseille.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Oui, mais encore une fois, comme le disait Péricot, tu te dis, Marseille, voilà, c'est à côté de la mer. Peut-être, on te dit souvent, il y a des immeubles qui sont bâtis sur du sable, etc. Et Lille, tu te dis pas la même chose.
Non. Mon allusion était plus méchante que ça. La municipalité marseillaise a des carences et des lacunes dans le système communal. Affligeant parce que c'est Marseille. Ouais. Je pensais qu'à Lille, c'était des gens qui avaient la tête sur les épaules, qui étaient rigoureux et sérieux. Ce qui n'est pas vrai. C'est au bris de glace maintenant.
On va passer au retard du jour.
La décision était attendue. Elle est arrivée hier matin, initialement prévue le samedi 19 novembre. L'ouverture de la station de Val Thorens, la plus haute de France, à 2300 mètres d'altitude, a été reportée au samedi suivant, malgré des températures plus fraîches et des premières chutes de neige depuis 10 jours. Les conditions ne sont pas réunies pour ouvrir de manière optimale dans une semaine.
Alors on avait posé la question il y a un mois dans STMI. Faut-il supprimer les sports d'hiver? Mais finalement, on n'a pas besoin.
Ils se suppriment de même.
Ou supprimer tout seul, quoi.
C'est quand même un gros symbole, hein, Val Thorens. Hein. C'est vraiment la station la plus haute d'Europe. Ouais. C'est un très, très gros symbole. On se dit, oh, une semaine, qu'est-ce que ça change? Si, si.
Bah, si, ça change.
Ça change. Ça change, effectivement. Et peut-être qu'effectivement, il va falloir qu'on arrête d'exploiter nos glaciers, nos sommets, parce qu'ils ne sont plus en capacité de l'être, quoi. Peut-être falloir qu'on arrête tout ça, tous les sports d'hiver.
Pas du tout.
Il y a des compétitions de ski alpin qui ont été reportées.
Le ski à roulettes. Il y a des ingénieurs qui vont nous inventer.
Mais tout ça existe depuis longtemps.
Vous verrez. C'est pour ça. Dans l'herbe, avec les herbes et tout, on aura des fleurs.
Non, mais c'est un vrai sujet, Perico. Il y a des dizaines de personnes qui vivent du tourisme à la montagne.
Les gens qui ont vécu du sport d'hiver, les grands groupes financiers, hôteliers, industriels, tout ça, qui font, ils ont contribué au réchauffement climatique.
Et les petits montagnards aussi.
Voilà, j'aimerais bien que ceux qui ont provoqué ça rendent des comptes un jour. Voilà,
mais attendez, mais qui va rendre des comptes? Le guide de haute montagne, il va rendre des comptes?
Je vous parle de ceux qui ont provoqué ce réchauffement climatique. Ça serait bien qu'ils rendent des comptes. Tant qu'ils ne rendront pas de comptes, ils continueront à faire des conneries.
Voilà. Non, mais d'accord. Et comment tu détermines la part de chacun?
On voit très bien quelles sont les industries, quels sont les pays, quels sont les gouvernements qui n'ont rien fait.
Voilà. Et t'as jamais été au ski, toi?
Non, je déteste ça.
Ça t'arrange.
Remonter la pente et la descendre, alors.
Non, tu la remontes pas. Tu sais, il y a des trucs au bout des câbles.
Oui,
ça perd des
avec
des
accidents, tu tombes du téléphérique, machin.
Ouais,
tu restes la nuit accroché en.
En fait,
en
l'air. C'est pas radical. Allez aussi, vous n'aimez pas la montagne, en fait, tout simplement.
J'adore la montagne, mais pas quand il n'y a pas de neige. Donc, je me réjouis de cette information.
Oh là là. Vous, Jérôme Lavrieux, qui allez au ski, je trouve c'est.
Il y a longtemps que j'y suis pas allé, mais j'adorerais pouvoir y retourner. Mais non, mais après, on ne sait pas. Peut-être que la saison va durer plus longtemps que ce qui était prévu. On en est qu'au début, ça arrive régulièrement. Donc,
il y aura une glaciation.
Laissons sa chance au produit.
Bon, bah écoutez, c'est la fin d'Estelle Midi. On va accueillir Vincent Moscato, là, qui
piaffe
d'impatience dans le couloir du studio. Ça va, Vincent Moscato?
Et vous, Estelle?
Ouais, super.
Moi, ça va?
Ouais, bien.
Super.
Salut.
Fais attention à ce qu'on te dit.
Et le micro.
Monsieur de Fursac.
Ah non.
La griffe de l'homme.
Il y a longtemps que j'ai plus les moyens.
Ça paie comme jamais. Vous êtes magnifique. Bon, alors attention, le Super Moscato Show, là, on rentre dans le truc, on va pas parler de montagne, de ski, tout ça. On parle de trucs sérieux. Cristiano Ronaldo.
Une interview extraordinaire.
Ah ouais,
il est génial, je l'adore.
Il envoie du pâté sur le président, sur l'entraîneur. Ça sent le sapin quand même. Il vieillit mal.
Ouais, non, il vieillit pas mal.
Il est beau, mais
en tant que footballeur, il commence à. On s'en fout.
Il s'en fout.
On s'en fout.
S'il avait un poireau et des poils dessus, comme ça, tu l'adorerais moins quand même.
Pas du tout, je trouve pas beau. C'est pas du tout bon. Bon, on continue.
Caisse de France est-il invincible? Quelle victoire! Ah, magnifique. T'as vu ça quand même?
Ouais.
Ah, bah, voilà, c'était. Nous sommes au sommet de la violence en Europe. Ce match contre l'Afrique du Sud, c'est ce qui se faisait de mieux à part l'Ukraine ce week-end. Hein.
Et...
ils se sont déboîtés. À un moment donné, il y avait 4-5 mecs en attente du protocole commotion. Une boucherie, c'était.
Bon. Ah ouais. Mais ça t'a plu alors?
Extraordinaire.
Ouais.
Ça nous a fait renouer avec le rugby de notre jeunesse. Nous sommes à J-6 avant la Coupe du Monde.
Oui.
Les Bleus sont à Clairefontaine.
Oui, bah c'est oui.
On écoutera Didier Deschamps qui en prendra des nouvelles de Karim Benzema qui n'a pas joué quand même depuis un mois.
Il se préserve.
Ah oui, il se préserve. Moi, je veux bien. Moi, les mecs, ils se préservent.
Et Kimpembe qui est pas là.
Ils sont compétitifs. Kimpembe qui est pas là. Pas là, j'ai vu. Tu vois, moi.
Chouini,
hein, je l'ai vu ce week-end. Je l'ai vu ce week-end.
Oui, bah c'est bien, oui.
Voilà, je l'ai vu ce week-end. J'ai,
vous avez discuté?
J'ai parlé, ouais. J'ai donné quelques conseils avant
t'as
la Coupe du
fait,
Monde.
Oui.
Voilà.
Bon.
Et puis on vous dira tout aussi.
Oui,
et puis,
bah voilà, oui.
Et puis on vous dira n'importe quoi, surtout.
Oui, bah surtout, oui. Oui. C'est bah comme là, quoi.
Voilà, voilà. Bah, écoute, on est équipé pour faire un très beau programme. Croyez-moi, ça va envoyer du bois. Il y aura un cri de cœur sur Clairefontaine. On vous dira ce qu'il y a. Là, ils s'en vont demain, je pense. Ils vont au Qatar demain. Et puis.
Qu'est-ce qu'on disait? Oui, et ben oui. Le Super Moscato Show, c'est tout de suite. Et puis nous, on se retrouve demain, midi 15h.
Ça veut dire sapé comme jamais.
À bientôt.
RMC, 15h-18h, le Super Moscato Show.